Chapitre 7. Un refus. Les Foster, que leur génie organisateur portait à se mêler volontiers des affaires d'autrui, avaient eu l'idée de transplanter le ménage des Roses dans la vieille maison attenante à leur magasin. Alice y régnerait de concert avec la vieille servante, qui, pour le présent, veillait au bien-être intérieur de Jérémia. Philip et Coulson resteraient ses locataires comme par le passé. L'obstination d'Alice fit avorter ses beaux plans dont le principal tort, énorme à ses yeux, était de n'avoir pas eu son aveu préalable. Elle entrevoyait, disait-elle, le mariage plus ou moins prochain de l'un des deux jeunes gens, et la femme qui l'aurait choisi revendiquerait très certainement la jouissance de la maison où on voulait le transplanter d'ores et déjà, sans égard à cette chance d'avenir. Qui savait d'ailleurs ce que serait la nouvelle venue? Les jeunes gens font des choix si bizarres, si peu raisonnables. L'absurdité des mariages en général, et du mariage des jeunes gens en particulier, était le thème favori des discours d'Alice. Elle n'en parlait guère sans une arrière-pensée hostile, une sorte d'amertume railleuse, bien convaincue, paraissait-il, que le choix d'une fiancée ou d'un mari devrait être exclusivement l'affaire des anciens de la famille. « Je vais t'expliquer ceci, » dit John Foster à Philip, le lendemain du jour où avaient été débattues les objections de leur vieille amie. Dans sa jeunesse, elle était fort agréable, et Jérémie ne songeait qu'à l'épouser, si bien que, n'ayant pu l'obtenir, il est resté célibataire pour le reste de ses jours. Esther, cependant, bien que fille de l'homme que mon frère s'est vu préférer, n'en aura pas moins, je le crois bien, tout ce qu'il doit laisser après lui. Je crois même, à ce propos, que vous feriez bien, toi et Coulson, de tenter fortune auprès d'Esther. J'en ai prévenu ce matin ton camarade, lui donnant ainsi quelque avance sur toi, parce qu'il est un peu mon parent. Vous voilà maintenant avertis, tous deux. Revenons au mariage de la pauvre Alice. Elle était alors jeune et gaie, souriante à chacun, point maussade ni revêche, si ce n'est pourtant lorsque Jérémie lui voulait faire un doigt de cour. Que veux-tu? Elle s'était affolée d'un certain Jack Rose, matelot à bord d'un baleinier. Chacun eut beau dire et beau faire, il fallut en fin de compte qu'elle l'épousât. Or, c'était un mauvais sujet, un débauché qui courait après le premier cotillon venu, buvait sans cesse et une fois gris battait sa femme. Le sourire et les fraîches couleurs de la pauvre Alice ne durèrent pas longtemps. Après un an de mariage, à l'époque où Esther vint au monde, elle avait déjà presque autant de cheveux blancs et presque autant de triste résignation que tu lui envoies aujourd'hui. Ils seraient tous morts de faim, le mari, la femme et l'enfant, si Jérémie ne leur fût venu en aide. En se cachant, bien entendu, car Alice a toujours eu beaucoup d'orgueil. Le nom de son bienfaiteur, en supposant qu'elle l'ait jamais deviné, a dû lui rendre le bienfait singulièrement amer. Mais l'orgueil lui-même doit se taire quand l'amour maternel est en jeu. Sur cette révélation des choses passées, Philippe, malgré lui, devint songeur. Il y retrouvait une situation identique à la sienne. Sylvia, comme jadis Alice, avait pu opter entre deux prétendants. Comme Alice, elle avait choisi celui qui devait inévitablement la rendre malheureuse, si le hasard ne s'était interposé pour la séparer de lui. Les choses humaines, se demandait-il, tournent-elles donc toujours dans le même cercle fatal? Et quand nous ne serons plus là, une autre Sylvia, un autre Charley, un autre Philippe joueront-ils les mêmes rôles que leurs devanciers? En somme, plus il y songeait, plus il se félicitait d'avoir tué à sa cousine ce qui pouvait lui laisser une désastreuse espérance. Les arrangements adoptés en définitive furent que Philippe irait occuper la vieille maison, tandis que Coulson resterait auprès d'Alice. Dans le courant de l'été, ce dernier vint dire à son nouvel associé qu'il avait demandé la main d'Esther, et que la veille même, il avait été catégoriquement refusé. « Je voudrais, » ajouta Coulson, « je voudrais, par votre entremise, savoir ce qu'elle peut objecter contre moi. » Elle ne devait pas ignorer mes sentiments, et sauf un peu de réserve, bien naturelle vu nos rapports quotidiens, elle ne m'avait en rien laissé deviner qu'ils lui fussent désagréables. Les convenances d'âge, ces relations déjà établies dans ma parenté, la déférence filiale que j'ai pour sa mère, tout semblait en ma faveur. Dois-je donc penser qu'il y a quelque chose entre elle et vous ? » ?»« Une fois pour toutes, » répliqua aussitôt Philippe, « défaites-vous de cette idée. Ne voyez en moi que son frère, en elle ne voyez que ma sœur. C'est la dernière fois que je vous le dis. Elle ne pense pas plus à moi, sous certains rapports, que moi-même je ne pense à elle. » « Si vous étiez amoureux, » reprit Coulson d'une voix plaintive. « Si j'étais amoureux, » interrompit sèchement son collègue, « j'aurais peut-être de ces imaginations ridicules, mais je n'en rabattrais pas les oreilles d'un chacun. » Toutefois, honteux de cette rebuffade à contre-temps, il se crut tenu, pour la faire oublier, de tenter la démarche sollicitée par son associé avec lequel, depuis quelques mois, il vivait dans les meilleurs termes. Il lui répugnait toutefois d'interroger Esther elle-même sur les causes de son refus. Une sorte d'embarras vaguement raisonné, de gêne instinctive, l'arrêtait malgré lui sur cette voie. Aussi chercha-t-il et finit-il par trouver l'occasion d'entretenir Alice un beau dimanche soir, seule à seule, comme il le désirait. Quand il entra, elle était assise près de la croisée et lisait sa Bible. Elle l'accueillit avec cordialité, mais sans beaucoup de paroles. Retira ses lunettes, qu'elle remit dans leur étui de corne, et dont elle se fit ensuite un signet en les glissant entre les pages du Livre Saint. Puis elle attendit, de pied ferme, l'explication d'une visite qui, dans l'ordre de ses relations actuelles avec le jeune marchand, avait quelque droit de la surprendre. Sans être un diplomate de première force, Philippe réussit, dès les premières questions de la bonne vieille, à mettre en scène son camarade Coulson. Mais ce nom lui fit froncer les sourcils. « Laissons-la, Coulson, » lui fit-elle, « et parlons de toi. Ce garçon m'intéresse fort peu, je te l'avouerai sans détour. Mais pourquoi donc, bonne mère? Sans être des plus brillants, il a du fond, c'est moi qui vous le dis, et je parierai pour lui contre n'importe quel autre de nos jeunes commerçants. J'en sais un, moi, pour qui je parierai plus volontiers. » Repartit Alice avec un sourire significatif. Philippe ne pouvait méconnaître la portée de cette allusion toute personnelle. « Soit, » dit-il, « admettons sans fausse modestie que sur certains points j'en sache plus long que mon camarade. À quoi cela tient-il ? À ce que j'ai reçu de bonne heure l'instruction qui lui manque et... l'instruction ? Où as-tu vu que l'instruction et les livres fissent faire son chemin à qui que ce soit ? L'essentiel, mon enfant, c'est l'intelligence elle-même, la faculté maîtresse, la force native, quelque chose dont le nom n'existe pas, mais que les femmes savent bien discerner. Je t'en réponds. Tiens, tiens, reprit vivement Philippe, c'est justement ce que je disais à Coulson. Il lui a paru très dur de n'être point accepté par Esther, et il est venu s'en plaindre à moi. Que lui as-tu dit ? Demanda aussitôt Alice, fixant sur son jeune interlocuteur un regard profond, comme pour lire dans sa physionomie le vrai sens des paroles qu'il allait prononcer. « Je lui ai dit, » repartit l'autre, enchanté d'avoir mis ainsi sur le tapis l'affaire dont il s'était chargé, « que je l'aiderais de tout mon possible. »« Vraiment, tu lui as dit cela ? Eh bien, nous ne manquons pas d'originaux ici-bas, » marmotta la bonne vieille avec un ironique sourire. « J'ai ajouté, » continua Philippe, « que la fantaisie entrait pour les trois quarts, tout au moins, dans le plus ou moins de goût que les jeunes filles peuvent avoir pour tel ou tel de leurs adorateurs. Maintenant, Esther ferait bien d'y regarder à deux fois, car il tient beaucoup à elle, et Dieu sait ce qui pourrait arriver si les choses en restaient là. « Elles n'en resteront pas là, » repartit Alice avec le sombre accent d'une sibylle inspirée. « Pourquoi donc ? » s'écria Philippe, tout étonné. Mais il n'obtint aucune réponse. Alice était absorbée dans l'immense effort de plier son orgueil à certaines paroles qu'elle voulait pourtant prononcer. « Voyons, bonne mère, un mot en faveur de ce pauvre garçon. » « Pas une syllabe, au contraire. Les mariages doivent se faire sans qu'on s'en mêle. Sais-je donc si ma fille n'en préfère pas un autre ? Allons donc, notre Esther n'est pas de celles qui donnent leur cœur sans qu'on le demande. Et soit ici, soit au magasin, nous savons tous qu'elle n'a pas pu être courtisée par âme qui vive, donc restons-en là, mon enfant. Je ne trouve pas que le jour où nous sommes se prête à tous ces bavardages mondains, et je te prie de me les épargner. Il me tarde, vois-tu, d'être dans un monde où on ne parlera plus ni de mariage ni d'amourette, car ici-bas, c'est une éternelle cause de bavardage et de malentendus. » Elle rouvrit à grand bruit sa Bible quand elle eut terminé cette espèce d'anathème, et pendant que ses mains tremblantes de colère ajustaient à grand-peine ses lunettes sur son nez, elle entendit Philippe s'excuser humblement. « Si j'avais été libre, disait-il, de venir un autre jour. » « très bien, ce qui est dit, n'y pensons plus. Tu pourrais cependant t'épargner ces méchantes excuses. Je gagerais bien que tu es allé à la ferme de Haters Bank un des jours de cette semaine. » Philippe ne put s'empêcher de rougir. Il en était effectivement à regarder ses visites sans cesse réitérées comme appartenant au train de ses occupations régulières. Aussi garda-t-il le silence. Alice, qui continuait à l'examiner, ne pouvait se tromper sur le vrai sens de cette réponse muette. « Tu vois que j'avais deviné, » reprit-elle. « Maintenant, si tu es encore tenté de te croire supérieur à Coulson, retiens bien les paroles que je t'adresse aujourd'hui et qui sont signées Alice Rose. » Coulson n'a pas le regard assez pénétrant pour voir à travers une planche. Mais tu es trop aveugle, toi, pour voir à travers une fenêtre ouverte. Quant à ta démarche en faveur de l'autre, sois certain qu'avant l'expiration de l'année, il aura trouvé n'importe où ce qu'il lui faut en place de cet Esther, dont tu le crois si épris. Maintenant, passe ton chemin et laisse-moi méditer le Saint-Livre. Les dimanches ne sont pas institués pour qu'on les passe à bavarder en pure perte. La mission de Philippe n'avait eu, on le voit, qu'un succès médiocre. Il s'en revint quelque peu confus, mais sans voir plus clair que devant, à travers les fenêtres ouvertes. La prédiction d'Alice fut d'ailleurs réalisée avant le terme fixé. Coulson, ne se trouvant pas absolument à l'aise dans la même maison que la jeune personne dont il n'avait pu faire sa femme, tourna ses prétentions d'un autre côté. Dès qu'il eut perdu l'espoir de ramener Esther à des sentiments plus favorables. Dans le nouvel attachement qu'on le vit former, la raison entrait pour une bonne part, et, moins aimant, il obtint meilleur retour. Avant que les premières neiges fussent tombées, Philippe figura comme garçon d'honneur à la noce de son heureux associé.